une histoire dans le rétroviseur.
Il y a 80 ans, en décembre 1955, la population noire de Montgomery, Alabama, ville symbole de l'Amérique de la ségrégation raciale, lance un défi aux suprémacistes blancs. Elle s'en prend au règlement des bus de la ville qui organise la ségrégation entre passagers afro-américains, 75% des usagers, et les passagers blancs. À l'avant, une section white de 10 sièges que les Noirs ont interdiction de traverser. Il leur faut donc monter, acheter leur ticket, redescendre du bus et monter par l'arrière où une section de 10 sièges leur est réservée. Au milieu, une section mouvante où Noirs et Blancs peuvent s'installer, mais jamais côte à côte, avec prééminence pour les Blancs en cas de forte affluence. L'histoire est connue et pourrait se résumer ainsi. Une ouvrière noire du nom de Rosa Parks, épuisée par sa journée de travail, refuse obstinément de céder sa place dans le bus à un homme blanc. Par ce geste aussi spontané, inédit que rebelle, et grâce à un pasteur noir du nom de Martin Luther King, elle va lancer bien involontairement le mouvement non-violent des droits civiques qui allait changer le visage de l'Amérique. Tout est vrai dans mon récit. L'année, le lieu, le geste fort, Parks et King, le mouvement des droits civiques. Tout est vrai et pourtant, rien n'est juste. Rosa Parks ne décida pas sur un coup de tête de rester assise parce que physiquement elle était éreintée par sa journée de travail. « Ce dont j'étais fatiguée, c'était de céder », a-t-elle écrit. Quadragénaire, militante depuis longtemps et qui jamais ne cessa de l'être, critique d'un mouvement pas assez radical et actif à ses yeux, Rosa Parks se préparait depuis des mois à commettre ce délit et à en faire une question politique centrale. Et avant elle, Claudette Colvin, une adolescente âgée de 15 ans, avait été arrêtée en mars pour avoir dérogé à ce règlement. Les médias ont figé Rosa Parks dans le courage d'une unique journée, alors qu'elle incarnait l'engagement politique d'une génération qui n'avait pas attendu le pasteur King pour entrer en lutte. Le problème est ici récurrent et se retrouve bien souvent dans les émissions d'histoire destinées au grand public. On nous vend un héros, une héroïne, un geste fort, et on met de côté toutes les dynamiques collectives qui ont permis à ce héros, à cette héroïne et à ce geste fort d'exister. D'où l'importance de faire entendre les voix de ces militantes et militants, incarnation d'une gauche noire plus radicale. Ne l'oublions pas, longtemps la maigre élite sociale noire craignait par-dessus tout d'être assimilée aux classes noires les plus pauvres. Ce prolétariat rural ou urbain en haillons, sans éducation, aux mœurs déplorables, qu'il conviendrait d'éduquer avant de songer à l'émanciper. Telle était la thèse défendue par cette élite pour le plus grand plaisir des dominants qui entendaient se réserver l'exercice de la démocratie. Oui, le mouvement des droits civiques fut parcouru par de multiples tensions, et ce tout au long de son histoire. Bourgeoisie noire contre classe populaire du ghetto, hommes fiers de leur masculinité contre féministes luttant pour ne plus jouer les utilités, quadragénaires libéraux modérés qui veulent conserver le leadership et lier leur sort aux libéraux américains, contre jeunes pousses radicales qui veulent s'émanciper d'une tutelle sclérosante et qui se retrouveront bientôt dans le discours des Black Panthers. Oui, la mémoire des vaincus a beaucoup à nous apprendre.
Alternant FM.